Le mag sport avec Loïc.
Et bonsoir, chers amis sportifs, bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour votre mag sport du 2 février 2018. Aujourd'hui, vous retrouverez un menu très riche et varié avec, entre autres, Marie Zalava qui revient à notre micro sur ses derniers exploits en saut à la perche ainsi que l'annonce de l'annulation du premier rallye Cœur des Vignobles Gaillacois qui devait se dérouler en cette fin de mois de février 2018, mais aussi une grande page foot avec tout d'abord le club de la Cône qui démontre que le football est et restera toujours un vecteur de solidarité et d'universalité. Mais bien sûr, nous reviendrons sur la préparation de l'SPDT pour la réception ce dimanche de Lille dans un match que nous commenterons en direct sur nos ondes en compagnie de deux joueuses du club dont nous faisons la surprise des 13h45 et qui sera un choc pour le maintien en D1 féminine. Toujours en foot, nous aurons aussi une interview de Franco Vignola, le néo-entraîneur de l'US Albi qui depuis son arrivée entraîne le club albigeois dans une spirale positive à l'orée de rencontrer le leader du championnat de DH, Muret. Mais tout d'abord, revenons un peu sur les jaunes et noirs du Sporting Club albigeois qui a pris une désillusion en terre bressane dimanche dernier, faisait relâche cette semaine, ce qui permet aux joueurs de faire souffler les organismes, d'autant plus que le week-end d'après, Albi est exempt.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume.
Car, dès le 17 février, un nouveau bloc haut en couleur s'annonce. Tout d'abord, le déplacement à Tarbes que nous envisageons très grandement de retransmettre en direct sur nos ondes, qui sera un nouveau duel entre éligibles à la Pro D2. Une équipe contre laquelle le SCA avait grandement patiné à s'imposer dans son entrée du stadium dans un match que les supporters avaient qualifié de purge à l'aller. Ce match au stade en cas de victoire pourrait permettre de faire un grand capa pour le Sporting Club albigeois vers une demi-finale retour à la maison. S'en suivra bien sûr sur nos ondes la réception d'Aubenas dans un match contre la Lanterne Rouge du championnat qui risque d'être assez piquant du fait du passif entre les deux clubs. Les supporters albigeois ayant encore en travers du gosier, la réclamation ardéchoise et le match à rejouer le 1er avril qui en découla. Chaude ambiance au stadium. En perspective un peu de ce style. Puis Albi entamera un nouveau bloc après une coupure, ce coup-ci rien que d'une semaine, par ce qui sera le choc de ses phases de retour. Accrochez-vous bien, le déplacement à Aix-en-Provence, enfin Provence Rugby, pour un match qui opposera l'ultra favori à l'accession directe à nos albigeois anciens pensionnaires de Pro D2 et en quête de la retrouver au plus vite. Tout un programme pour les joueurs du Sporting qui vont devoir, durant cette phase de retour, aller chercher des points un peu partout pour avoir leur destin entre leurs mains. Même si, soyons sérieux, malgré l'incertitude du sport, la première place semble plus qu'hypothétique depuis le revers à Bourg-en-Bresse. Pour revenir sur ce premier bloc de match en 2018, sur les prochaines essais à chance des jaunes et noirs, ainsi que sur sa forme du moment, nous avons eu la chance d'avoir le toujours très sympathique et disponible Thomas Lasselle, auteur le week-end dernier, d'un des deux essais qui ont entretenu un fol espoir. On écoute Thomas Lasselle. Thomas Lasselle, bonjour, merci d'être à nos micros, à notre micro plutôt, et de nous accorder un peu de votre temps.
Bonjour.
Thomas, vous êtes un des joueurs en canne pour le moment du SCA. Vous avez inscrit un essai contre Bourg, qui n'a malheureusement pas suffi. Vous avez enchaîné deux titularisations à l'aile lors des deux derniers matchs. Vous commencez vraiment à prendre vos marques au SCA malgré une rude concurrence.
C'est ça un petit peu. Oui, c'est vrai que ça commence à mieux tourner pour moi. Donc, tout se passe pour le mieux. Donc, je suis vraiment ravi. Donc, après, bon, malgré la défaite contre Bourg, c'est vrai que ça fait plaisir de jouer, de retrouver du temps de jeu.
Et puis en plus d'aller à Dames, ça fait toujours plaisir.
Voilà, oui, marqué, ça fait un petit bout de temps qu'il n'y ait pas marqué, donc effectivement, ça fait du bien. Pour la tête, ça fait du bien.
Ok, merci Thomas. Donc, revenons sur cette défaite à Bourg, c'est un véritable coup d'arrêt, alors que vous étiez en dynamique, 6 matchs sans défaite, donc 5 victoires de rang. Comment avez-vous réagi, ainsi que le groupe, et comment fait-on dans ce championnat en contexte si particulier pour se remettre le cerveau à l'endroit et repartir vers de nouveaux objectifs, car cette première place s'est sûrement définitivement envolée, non ?
C'est un peu compliqué, effectivement, on tenait à cœur de faire une belle performance à Bourg-en-Bresse. Donc, bon, là, il y a la défaite, mais je pense que Au final, on est plutôt content du volume de jeu qu'on a proposé, de la réaction des gars. Donc sur ça, je pense qu'on n'est pas inquiet sur la suite du championnat. C'est ça le plus important. Effectivement, bah, voilà, on perd, on loupe 14 points en 20 minutes au début de match. Donc c'est un peu le tournant du match. Mais voilà, je pense que il y a de quoi se rassurer. Je pense à la fin du match, mais il y avait de quoi se rassurer.
Ouais, à la fin du match, ces deux essais loupés, on va dire, par les Anavan, vous avez dû vous les ressasser quand même quelques fois, parce que il est là, la clé du match, elle doit être là quand même, je pense.
Ah, bien sûr, eux, ils viennent 2-3 fois dans nos 22 mètres, ils marquent à chaque fois, ils sont super réalistes, donc ça met un coup derrière la tête quand même quand on n'arrive pas à concrétiser un manque de réalisme qui est flagrant, donc c'est vrai que c'est difficile mentalement d'enchaîner le match après, j'en ai moins serein, donc c'est vrai que ça fait du mal.
Ce sont surtout des petits détails qu'il faudra peut-être corriger pour les phases finales, parce que là tout sera remis à zéro avec des matchs couperés qui sont particuliers à appréhender quand même.
C'est sûr, bien évidemment. Hein. Donc je pense qu'on va travailler dès la semaine prochaine, qu'on va revenir pour essayer de régler ce genre de problème. Mais bon voilà, mais comme je dis, je pense qu'on est plutôt rassuré voilà, du volume de jeu qu'on a proposé. Même pour Bourg-en-Bresse à la maison, il y avait du monde. On était présent, donc je pense que ça peut nous rassurer effectivement.
Et maintenant, pour le Sporting, l'objectif, c'est d'accrocher la seconde place pour être sûr de recevoir la demi-finale retour à la maison.
C'est ça, voilà. Donc, il nous reste quelques matchs. On va aller à Tarbes déjà le prochain match. Donc, quoi qu'il arrive, de manière que ce soit Tarbes ou tous les autres, on va essayer de tout gagner jusqu'à la fin. Et c'est l'objectif de toute manière. Donc, voilà. Donc, finir deuxième, ce serait vraiment l'idéal.
Ok. Allez, une dernière petite question, bien plus perso. Vous êtes un des derniers arrivés, un des petits nouveaux SCA, même si vous n'êtes pas le seul, puisqu'il y a 60% de l'effectif qui a été remanié. On voit qu'à l'entraînement, vous êtes bien intégré dans ce groupe. Mais avec quel joueur avez-vous le plus d'affinité, étant qu'on y est, plus de 8 mois après votre arrivée, comment vous sentez-vous dans cette bonne vieille ville d'Albi?
Alors, il n'y a pas un joueur en particulier sort du lot, voilà. Je suis souvent avec Swan Cormenier parce que j'y joue avec lui en espoir à Brive, donc je suis souvent avec lui, mais sinon voilà, on joue à la coinche avec les mecs entre midi et deux, on fait des restos, on va boire des bières ensemble avec quasiment tout le monde, donc je pense que même les anciens, les nouveaux, il y a une osmose qui s'est fait depuis quelques temps là, donc il n'y a vraiment pas une personne en particulier ou qui sort du lot quoi, mais après
un vrai groupe aîné, on va dire.
Voilà, un peu, oui, c'est vrai. Mais ça fait plaisir, hein, d'ailleurs.
Ça fait
plaisir. Et sinon, au niveau de la ville, je m'y plais. Voilà, c'est un petit Toulouse, donc vraiment, je me sens bien à Albi. Donc voilà, j'ai signé 2 ans et je suis content de rester là l'an prochain. Donc il n'y a pas de souci sur ça et voilà, je suis content d'être là.
2 ans et qui sait plus, peut-être. Hein.
Peut-être.
L'avenir le dira.
Officiellement 2 ans, bien sûr, mais pourquoi pas plus, bien sûr. C'est sûr.
Ok Thomas, ben on va finir sur ces notes positives et on vous remercie d'avoir répondu à nos sollicitations en espérant que vous et vos coéquipiers puissiez repartir sur une dynamique vertueuse pour que nous puissions vivre une fin de saison haletante.
Merci à vous.
À bientôt Thomas, au revoir.
Merci, au revoir.
Après avoir écouté le 3 carrel ou arrière virevoltant du SCA, mais qui peut aussi dépanner à l'ouverture, passons maintenant aux coulisses du Sporting. Et oui, au château, comme le surnomment les aficionados, enfin en coulisses chez les Jaunes et Noirs, les tractations vont bon train pour qu'enfin la convention liant SASP et association soit signée, permettant au club de rentrer dans les clous auprès des instances. Selon nos sources, le président de l'association, Gérard Marioux, pour ne pas le nommer, qui jusqu'à présent n'était pas des plus enclins à la signer, car pas satisfait de son contenu, aurait déclaré lors du dernier comité directeur extraordinaire cette semaine qu'à l'exception de 2 points d'achoppement qui restent à régler, la convention avait 99% de chances d'être signée. Voilà qui ravira le président de la SSP, Alain Roumégoux, qui de tractation en tractation semble bien touché à l'embut. En parlant du château, nous avons eu la surprise de voir un ancien châtelain, à la personne de l'ex-président Jean-Jacques Castanet, dans les colonnes du Midol, et en bonne compagnie, qui plus est, ni plus ni moins que Bernard Laporte, lors des journées partenaires Fédération Française de Rugby, BMW. Un Jean-Jacques Castanet, dira-t-on, retiré du Sporting, mais qui reste dans les arcanes du rugby, sa passion de toujours. Pour preuve, il sponsorise le club de Brive en top 14, celui de Colomiers en Pro D2, et donc, après avoir remis un Oscar Midol, il y a quelques mois, se retrouve une fois de plus au plus proche des instances de l'Ovalie. Malgré un départ du CA qui fut loin d'être par la grande porte du fait de la relégation, et le premier intéressé, je pense, en conviendra, il n'en reste pas moins un de ces personnages qui compte dans le paysage rugbystique local. De là à le voir un jour revenir dans le Landerneau albigeois, même si aucun élément ne viendrait le confirmer à l'heure actuelle, je vous dirai...
Rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne.
Enfin, au siège social du club, eux, c'est plutôt branle-bas de combat avant la venue des lignées, dans quelques semaines, de la DNA-CG. Cet épisode tendra à démontrer où en est clairement le Sporting financièrement et sera le dernier quitus avant de pouvoir définitivement rêver de Pro D2. Voilà, voilà, c'était les dernières nouvelles du château. Maintenant, faisons une petite brève avec le comité d'animation du SCA qui organise le déplacement en bus à Tarbes le samedi 17 février. Le tarif est de 20€ pour les adhérents et 25€ pour les non-adhérents et comprend le bus, le sandwich, le café et le ticket du match, bien sûr. Le départ se fera du stadium d'Albi le samedi 17 février à 13h40 et pour tout renseignement, envoyez un SMS au 06 21 65 68 29 ou au 07 69 74 53 87. En espérant que vous vous déplacez nombreux pour soutenir les... Allez, maintenant, passons au foot, avec tout d'abord un sujet assez transversal et de société, avec le foot au cœur. L'initiative du FC Lacon d'accueillir des migrants logeant dans le centre d'accueil de la commune au sein du club démontra les valeurs universelles de solidarité et de fraternité du football. Bien sûr, nous avons contacté le président Claude Pujol pour faire un petit reportage sur ce sujet où humanisme et esprit sportif font bon ménage. Donc nous sommes avec M. Pujol, président du FC Lacon. M. Pujol, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc on vient d'apprendre dans la presse que le FC Lacon a fait une démarche qui sort un peu du commun, qui montre que le football est aussi un vecteur d'intégration, un vecteur de lien social, puisque la commune de Lacon a un centre d'hébergement des migrants. Et on a appris que, bien sûr, le FC Lacon a ouvert ses portes à ces migrants pour qu'ils puissent venir pratiquer le foot, sport universel et... on va dire, de lien social.
Oui, voilà, c'est ça, oui. Ben, disons que une personne m'a contacté, la personne qui s'occupe du centre sur Lacon, mm-hmm. et m'a demandé, on a discuté un petit moment ensemble, et m'a demandé s'il y a pour nous la possibilité d'accueillir quelques jeunes lors des entraînements de football du FC Lacon. Donc, voilà, moi, par à la suite de ça, j'ai pas dit non, j'ai dit, normalement, il n'y a pas de souci. J'en ai parlé, bien sûr, aux entraîneurs, aux éducateurs des jeunes, pour voir s'ils étaient d'accord un petit peu, parce que c'est eux qui s'occupent des entraînements, donc c'est à eux à gérer ça. Donc, il n'y a eu aucun souci. Voilà, donc on a quelques jeunes qui viennent régulièrement aux entraînements, puisque nous avons deux entraînements par semaine.
Ok. Alors, dans la pratique, comment ça se déroule? Ils sont licenciés ou ils viennent en loisir?
Non, ils ne peuvent pas être licenciés. Enfin, on a discuté avec la dame qui s'occupe d'eux. On ne peut pas leur faire prendre des licences parce que beaucoup n'ont pas de papier.
D'accord.
Et Donc il est impossible de faire une licence à la Fédération Française de Football. Voilà.
Ok. Après, quand on connaît un peu l'histoire des mondes de Lacon et de votre territoire, c'est quand même un territoire où on a quand même une certaine façon de voir les choses avec une solidarité, puisque quand on se rappelle que durant la Seconde Guerre mondiale, le territoire de Lacon a été une zone de refuge pour tous les opprimés et entre autres les Juifs qui étaient persécutés par le régime nazi et on va dire l'État de Vichy. Lacon a été là pour leur porter assistance. Quand on regarde les justes dans le temps, ces personnes qui ont aidé les Juifs à se cacher et à éviter de se faire arrêter et d'être déportés dans les camps de concentration, on voit que quand même la majeure partie provient des monts de Lacon, un territoire qui a su ouvrir ses portes
aux opprimés. Certainement le territoire, peut-être aussi le territoire fait pour ça, parce que bon, nous sommes en zone de montagne, donc un petit peu reculé des grands centres, et peut-être à ce moment-là, ça a permis aussi à certaines personnes de se réfugier et de se cacher plus facilement que dans d'autres endroits, je pense.
Oui. Donc on voit que la tradition de solidarité traverse les décennies dans les monts de la Côte, on va dire.
Oui, je sais pas si c'est ça, mais oui, peut-être, oui. Bon, là, nous, par rapport à ces jeunes-là, bon, nous, moi, j'ai jamais été contre, au contraire, j'ai essayé de voir comment on pouvait faire. On a essayé de leur fournir, certaines n'avaient pas grand-chose ou même rien. Mm-hmm. On a essayé, par rapport au club, de leur fournir un petit peu quelques paires de crampons, quelques shorts, quelques chaussettes. Hein. Bon, je dois encore récupérer des équipements pour eux. Mm-hmm. Je devrais y arriver un petit peu, de manière à ce qu'ils puissent aussi venir confortablement. Voilà.
Ok, donc vous essayez de les mettre à des conditions optimum pour la pratique du foot et c'est tout à votre honneur.
On a à peu près une quinzaine de jeunes qui viennent régulièrement. Donc j'avais demandé à leur éducatrice de partager le groupe de manière à ce que on n'ait pas en même temps tous les jeunes. Donc il y en a qui viennent le mardi et le vendredi.
D'accord.
Soit le mardi soir et le vendredi soir, on a à chaque fois 7 ou 8 jeunes, soit le mardi soit le vendredi, qui viennent aux entraînements, qui sont bien intégrés au groupe. Et puis je peux dire aujourd'hui qu'on n'a aucune difficulté, il n'y a eu aucun problème. Voilà,
c'est bien,
il a fallu un petit peu faire le barrage de la langue parce que beaucoup ne parlent pas français. Mm-hmm. Enfin bon, on s'est adapté, on a réussi à. On a aussi des jeunes qui parlent anglais, donc on a réussi à les intégrer et je pense qu'ils sont très très contents de venir aux entraînements.
Et puis le foot c'est un langage international, on va dire.
Voilà, tout à fait. Bon, et on ne cache pas qu'il y en a quelques-uns qui sont pas mal du tout d'ailleurs. Mm-hmm. Footballistiquement, donc c'est dommage qu'on puisse pas leur faire prendre licence. À ce sujet-là, j'ai eu le district du Tarn de football pour qui m'a aussi contacté, qui m'a dit qu'ils allaient peut-être essayer de trouver une solution pour voir s'il y avait moyen de faire quelque chose pour eux.
D'accord.
Bon, j'ai pas eu de retour jusqu'à aujourd'hui. Bon, après sachant que en principe le centre va être libéré pour le mois de juin, donc peut-être aussi voilà, je sais pas trop comment ça va se passer pour eux.
Ok, oui, l'avenir le dira. On va passer
tout à fait.
On va passer sur un autre registre parce qu'on est aussi dans un Max Sport et on va essayer de aussi faire un petit point sur la saison du FC Lacône pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le club. Vous évoluez en quelle division et quels sont les résultats sportifs de votre équipe Fagnon?
Voilà, notre équipe Fagnon est en excellence, c'est-à-dire on appelle ça maintenant la D1 au niveau du départemental.
Bien sûr.
Bon, nous avons été pendant 5 ou 6 ans en Ligue, mais bon. On a toujours un petit peu terminé les saisons précédentes difficilement. Bon, on n'a pas un effectif extra large.
D'accord.
Donc, je pense qu'on est aujourd'hui à notre niveau. Voilà, l'équipe 1 est en milieu de tableau cette année. Bon, on a quand même 160 licenciés au club. Pour la Côte, c'est pas mal.
Tout à fait.
On a une école de foot. Donc, une équipe féminine, hein, senior aussi. Voilà.
Donc, pour conclure, on peut dire que le FC Lacône est une équipe et un club dynamique et qui, en même temps, sait avoir une vision solidaire du football.
Voilà, on essaie d'être dynamique. Bon, après, il faut aussi qu'on est dans une zone de montagne, il faut que tous les villages autour soient conscients du problème qu'on peut avoir un jour d'effectif et essayer de se regrouper pour travailler ensemble de manière à conserver une dynamique jeune sur la montagne. Je crois qu'on a tout intérêt à être solidaire vis-à-vis de ça. Voilà. Oh.
Ok, ben merci Président Pujol pour votre intervention.
Je vous en prie.
Et en espérant que le FC Lacône reste toujours un fédérateur du territoire des monts de Lacône et en même temps le porteur de belles valeurs comme vous nous l'avez démontré ces jours-ci.
Merci beaucoup.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée à vous aussi, bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.
Un grand bravo encore à ce club qui démontre brillamment que le sport est plus qu'une activité physique, mais un véritable lien fédérateur au-delà des affres dont souffre notre monde. En définitive, les Lacônais ont ouvert leur cœur et ont lancé un message. Maintenant, passons à notre grand rendez-vous sport sur nos ondes ce week-end. Le match des filles de la SPTT qui affronteront dans cette 14e journée de D1 féminine, le LOSC Lille. Un match choc du maintien que nous commenterons en direct dès 13h45 dimanche en compagnie d'une ou sûrement de deux joueuses jaunes et rouges qui nous feront la joie de nous amener leur expertise. Nous ne pouvons vous communiquer à l'heure actuelle leur nom, car Théodore Genoux et Patrice Garrigue, n'ayant pas encore établi définitivement les joueuses retenues pour ce match, nous attendons d'ici quelques heures, voire quelques minutes, de connaître les noms des heureux élus pour venir partager avec nos auditeurs ce match entre les 7e et 9e du championnat, et qui sont toutes les deux à égalité, 12 unités. Ce match va valoir de l'or et malheur aux perdantes. Écoutons, pour revenir sur le contexte et sur ce début de saison plein d'espoir et de belles surprises, la jeune et déterminée Kristina Pantelić, jeune espoir et internationale serbe. Nous sommes avec Kristina Pantelić, internationale serbe et joueuse de la SPTLB depuis quasiment 2 ans et demi, on va dire. Kristina, tout d'abord, avant de parler foot, comment s'est passée votre acclimatation dans la ville d'Albi et en France ?
J'ai venu ici en février 2016, j'étais toute seule et après j'ai deux coéquipières qui jouent en Serbie aussi, elles sont venues en 2017. Au début c'était un peu difficile pour moi parce que je n'ai pas parlé français, à l'école j'ai appris juste anglais et c'était très très compliqué. Je n'ai pas joué au début avec D1, j'ai joué 2-3 matchs en DH et après petit à petit mon entraîneur Adolphe, il m'a donné ma chance, j'ai réussi et après j'ai continué de jouer en D1 et j'étais toute la saison presque titulaire. Après on a changé de coach, c'est quand même j'ai commencé de début, de zéro. Après c'était un peu plus facile avec moi, pour moi avec d'autres Serbes aussi. Et cette saison je joue aussi mais j'espère que je vais continuer de jouer.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et on voit quand même que le français, vous disiez de ne pas le parler en arrivant. Vous avez bien progressé puisque vous parlez un français très correct. C'est une forme d'acclimatisation à la France. Et en plus, Albi, si j'ai bien compris, c'est une ville qui vous plaît.
Oui, c'est une petite ville, mais il y a quelque chose à faire. C'est pas une grande ville comme Toulouse, mais c'est joli.
Bon, alors on va revenir au sportif. Le week-end dernier, vous avez été éliminé en Coupe de France contre Montpellier, une grosse écurie de la D1 féminine. Vous êtes rentré en cours de match. C'est quand même des matchs où on emmagasine de l'expérience.
Oui, c'est Coupe de France, c'est différent des championnats. On peut aller très très loin, on peut s'éliminer en première phase, ça dépend de beaucoup de choses. Et ce dimanche on pouvait gagner quand même, on avait 12 occasions franches. Après dans l'autre côté c'est quand même Montpellier et ils avaient deux chances et ils ont réussi, donc c'était 12-0 pour à la fin et c'est ça, on n'a pas réussi à se qualifier.
Mais ça a été une belle bataille quand même, vous n'avez pas rendu les armes.
C'était pas comme en début de championnat, on a montré notre vrai visage. Au début, on a pris 7 buts et là, on pouvait gagner.
Donc maintenant, on va revenir sur le match qui nous intéresse, le match de Lille. C'est le Money Time, on va dire, pour le maintien. C'est une équipe qui, comme la SPT d'Albi, cherche à se maintenir coûte que coûte. Ça va être un gros match, en perspective.
Ça va être un gros match. On joue chez nous à Rigaud et après, on joue contre Bordeaux. Et je pense qu'on a des opportunités pour se maintenir de ce dimanche.
D'accord. Et après, vous personnellement, qu'est-ce que vous espérez cette saison et les saisons à venir ? Quelles sont plutôt vos ambitions pour le futur ?
Collectif, j'aimerais bien qu'on finisse la saison dans le top 5, c'est possible. On n'est pas très loin, c'est la première fois, je pense, pour Albi qu'il peut finir au top 5. Et personnellement, je veux jouer plus tard possible et marquer des buts, pourquoi pas des passes des aussi. Après, pour la saison prochaine, je ne sais pas encore, c'est très loin, je reste sur le présence.
Après, vous êtes une jeune joueuse, donc vous avez une marge de progression encore et vous pouvez aller tutoyer de nouveaux sommets, on va dire.
C'est ça, j'ai 20 ans et pour moi, Albi, c'est, j'espère juste
Une marche
pour rebondir pour après.
Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite et en espérant que contre Lille, vous nous sortez un gros match.
Merci beaucoup, moi aussi j'espère.
Merci Kristina. La souriante Kristina Pantelić sera-t-elle titulaire dans ce match que le duo Garrigue Genoux a érigé un véritable objectif, 3 points. Car en cas de victoire, Albi pourrait aborder sa mission maintien avec beaucoup plus de sérénité et commencer à regarder vers de nouveaux horizons, toujours plus haut. Et comme le disait la jeune internationale serbe Kristina Pantelić, pourquoi pas un top 5 pour le plus petit budget de la D1 féminine. Ça serait fabuleux. Espérons que nos abigeoises puissent concrétiser au score les progrès indéniables que l'on voit jour après jour sur les terrains d'entraînement ou même en match. Enfin, dans tous les cas, nous serons là en direct dès 13h45 pour vous narrer l'épopée des... Maintenant, passons aussi un brin au football masculin où le coach de l'USLB, à l'orée de rencontrer le leader muretin, a bien voulu revenir entre micros sur son début de mandat au sein du club albigeois. Allez, on écoute Franco Vignola.
Franco Vignola, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le nouveau coach de l'USLB depuis le mois d'octobre, avec une certaine réussite, puisque malgré un premier match où vous avez été éliminé au tir au but en Coupe de France, depuis un championnat, on va dire, c'est la remontada folle de l'USLB. C'est quand même une grande satisfaction pour vous, Monsieur Vignola.
Bon, la grande remontada, je sais pas. Après, je pense que, bon, c'est vrai que pour les matchs de Coupe de France, les joueurs étaient là pour prendre certains repères, on avait remis un système de jeu en place, donc il y a eu quelques problèmes, mais bon, dans l'ensemble, il y avait quand même des bonnes choses. Après, ensuite, en championnat, c'est vrai qu'on a réussi à être performant, donc ça c'est important, en plus avec un groupe qui a pas mal changé. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre, depuis 3 mois que je suis en place, les garçons bossent correctement, bossent bien, donc je pense que c'est important et qu'ils sont récompensés par les résultats.
Surtout quand vous êtes arrivé, c'était une équipe quand même, on va dire, qui était en souffrance, puisqu'il y avait un déficit de victoire. Je crois que vous n'avez pas gagné depuis 6 ou 7 mois, donc il y avait du boulot, hein. Vous aviez du pain sur la planche, on va dire.
Ouais, du pain sur la planche, oui. Après, quand il y a un changement d'entraîneur, c'est toujours parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Mm-hmm. Donc voilà, moi je suis venu avec mes principes, donc ce qui est important, c'est que les joueurs ont adhéré par rapport à ces principes-là. Après voilà, après à partir du moment où vous bossez correctement, vous êtes sérieux, vous avez un très bon état d'esprit, il y a pas de raison, hein. Je crois que voilà, les garçons ont démontré qu'ils étaient capables d'accrocher n'importe quelle équipe. Maintenant voilà, je sais aussi qu'on est fragile et que ça peut vite basculer dans l'autre sens.
Oui, ça va très vite, hein, le foot peut aller dans un sens comme dans l'autre très très rapidement. Et en termes de philosophie de jeu, vous êtes arrivé avec quelle philosophie de jeu, quels sont les préceptes que vous avez appliqués à l'USLB?
Les préceptes, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est que les garçons prennent du plaisir sur le terrain. Je crois que c'est ça le plus important. Après voilà, quand on monte sur un terrain, ne pas oublier que c'est la compétition. Donc quand on monte sur un terrain, c'est pour gagner. Alors parfois on gagne avec la manière, parfois sans la manière, voilà, mais ça reste de la compétition, donc il faut être quelque part compétiteur dans l'âme. Et voilà, se donner les moyens, on va dire, pour à la fin que le résultat soit positif. Donc c'est surtout par rapport à ça. Après voilà, c'est d'avoir un état d'esprit irréprochable, d'être capable de mettre, on va dire, ses qualités individuelles au service du collectif, et c'est ce que les gars font correctement jusqu'à présent, et je crois que c'est ça le plus important.
Ok. Et après, bon, on sait que dans le foot pro, il y a un mercato qui est très actif, hivernal, mais aussi dans le foot amateur, il y a beaucoup de mutations, on va dire, même au mercato hivernal. Ça a été le cas à l'USLB, vous avez eu des arrivées, des renforts, ou même des départs?
Alors écoutez, moi depuis que je suis arrivé, pour faire simple, hein, j'ai eu 9 départs.
D'accord.
Pour diverses raisons, certains qui adhéraient pas forcément à mon projet, d'autres qui ont préféré aller voir ailleurs, ce qui fait partie du jeu. À côté de ça, moi j'ai intégré depuis mon arrivée 4-5 joueurs de l'équipe 2 avec une moyenne d'âge de 19-20 ans. Donc ce qui m'a rajeuni énormément mon groupe. Et puis là au mois de janvier, on a fait venir 3 joueurs parce que ouais, il y avait des postes, on était pas en difficulté, mais il nous manquait du monde. Donc on a eu l'opportunité de faire 3 joueurs, donc voilà, ça permet de renforcer un peu le groupe et surtout de compléter.
D'avoir un peu de profondeur de banc, comme on dit.
Ouais, c'est ça, parce que voilà, moi je suis pas le genre d'entraîneur à jouer toujours avec la même équipe. J'aime bien faire tourner, j'aime bien avoir un maximum de joueurs concernés par rapport au projet. Donc voilà, moi ça me permet chaque week-end de peut-être changer mon équipe, tout en essayant de rester performant.
Ok. Et alors on va revenir maintenant sur l'actualité du moment, c'est-à-dire ce match face à Muret, qui est le leader du championnat. Vous avez déjà fait un gros coup, c'est-à-dire en faisant tomber Lourdes il y a de cela un mois et demi. Maintenant, ça annonce Muret, c'est, on va dire, un obstacle, mais pas insurmontable pour SLB.
Bon, après, faut pas se leurrer. Muret, depuis quelques temps, il montre qu'ils sont quand même au-dessus, hein, au-dessus des autres. Hein. Donc, en plus, ils ont encore fait un gros recrutement à l'intersaison, là, très hivernal. Donc voilà, on s'attend à un match très, très difficile. Hein. Donc là, ils ont le vent en poupe, hein, depuis la reprise, parce qu'ils ont pratiquement gagné tous leurs matchs, encaissé très peu de buts. Donc voilà, nous, on va là-bas toujours pareil, comme je vous ai dit, hein, j'ai un groupe qui est très jeune, donc j'ai la moitié des joueurs qui n'ont jamais joué en DH, donc ils sont en phase d'apprentissage. Donc ça, c'est des matchs qui sont toujours intéressants parce qu'on apprend très vite et beaucoup de choses. Donc voilà, on va aller là-bas en étant, ambitieux, avec quand même une certaine humilité, parce que il faut pas oublier d'où on part. Donc voilà, ce qui est important, c'est ça. Après, c'est voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gars prennent du plaisir, qu'ils soient efficaces dans ce qu'ils font, et surtout qu'ils aient pas de regrets à la fin du match. C'est ça le plus important. Après, on sait que ça sera un match très très compliqué.
Bien sûr, mais après, le foot peut réserver des belles surprises des fois. Après, en termes d'objectifs, on sait que le président Lejeune aime bien les coupes. Pour l'instant, vous êtes en Coupe d'Occitanie, vous avez éliminé Gaillac récemment. Mais en championnat, quel serait le classement qui vous conviendrait le mieux?
Le classement qui convient le mieux, je pense, à chaque entraîneur, c'est le plus haut possible.
Oui, bien sûr.
Après, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis arrivé le 2 octobre, on était 13e avec un point. Mm-hmm. Au jour d'aujourd'hui, on est 6e, donc on est déjà bien remonté. Après voilà, après moi j'ai pas d'objectif, hein. Les objectifs, c'est les joueurs qui se les fixent, hein, au fur et à mesure. Voilà, donc là on a deux gros matchs, Muret et Rodez. Si ces deux matchs-là on les perd, eh ben je pense qu'on restera dans le ventre mou jusqu'à la fin de saison. Si ces deux matchs-là on les gagne, on pourra pratiquement rejouer le podium. Donc voilà, ça joue à très peu de choses. Donc on verra déjà par rapport au match de Muret samedi et ensuite la réception de Rodez. Et puis on fera le point. Après voilà, moi comme entraîneur, je suis comme mes joueurs, voilà, j'aime la compétition, on monte sur un terrain, c'est pour gagner, donc voilà, le classement, c'est de finir le plus haut possible, mais sans oublier d'où on vient, voilà, c'est ça le plus important.
Donc si je comprends bien votre message, même si on est qu'en janvier, enfin maintenant en février, avec ces deux matchs importants, on rentre déjà dans le money time.
Ouais, mais de toute façon, tous les matchs sont importants, on est sur la phase retour, donc on sait que voilà, que y a des matchs compliqués qui arrivent pour nous, donc Métropole, on l'a bien négocié. Maintenant, ouais, il nous reste déjà dans un premier temps Muret et Rodez dans le haut tableau. Après, tous les matchs sont compliqués. Hein. C'est quand même, voilà, c'est un championnat où il y a deux groupes qui se sont séparés. Hein. Vous avez 6-7 équipes devant, puis le reste derrière. Mais tous les matchs sont compliqués. Donc, on sait très bien que on peut gagner contre le premier, puis la semaine d'après perdre contre le dernier. Donc voilà, ce qui est important, c'est surtout mon équipe, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Ok, le message est passé. Donc, on va vous laisser, Franco Vignola, sur ces belles paroles, en vous souhaitant de faire une belle surprise face à Muret pour que l'US Albi arrive en fin de saison au plus beau classement possible, puis qui sait, peut-être la remontée qui est tant espérée depuis quelques années en Albigeois.
Oh, mais attendez, la remontée, ça se prépare, on ne monte pas comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, là, on est en train de travailler, comme je vous l'ai dit, correctement. Voilà, donc on verra un peu plus tard. Voilà.
Comme on dit, qui vivra verra.
Eh oui,
merci.
On verra bien.
Merci à vous. Merci Franco et à très bientôt. Au revoir.
Ok, au revoir.
Franco Vignola, comme vous avez pu l'entendre, doit faire face à un sérieux examen de passage dans cette DH avec le leader muretain. Un championnat de DH où Albi, 6e à 23 points, est certes à 8 points de ses adversaires du week-end, Muret, mais qu'à seulement 2 unités du Toulouse Métropole, 3e. Cette rencontre sera un véritable test pour nos albigeois, mais surtout peut devenir un déclic pour ce groupe qui peut maintenant entrevoir le trio de tête. Réponse mardi dans votre Maxport à 12h30. Allez, maintenant passons au Breaking News. Tout d'abord, une mauvaise nouvelle avec l'annulation de ce qui devrait être autour de Cahuzac-sur-Vert, le premier rallye cœur des vignobles. Je vous fais lecture du communiqué de l'écurie des Deux-Rives de hier, communiqué de hier, entité qui organisait ce rallye et qui organise le mythique rallye des Côtes-du-Tarn. Communiqué. Report du premier rallye régional Cœur des Vignobles. La première édition du rallye régional Cœur des Vignobles devait se dérouler les 24 et 25 février 2018 sur les routes de l'ouest du Tarn. L'ensemble des entités organisatrices et des différents corps administratifs ont décidé d'un commun accord de reporter la première édition de ce rallye à l'année 2019. En effet, des soucis administratifs de dernière minute sont intervenus et auraient pu gêner et contrarier la bonne organisation de ce nouveau rallye. Nous, les organisateurs lucides et responsables, conscients que ces soucis pouvait altérer la sécurité, la responsabilité ainsi que l'intégrité des biens et des personnes, avons choisi d'offrir le plus de chances de réussite au rallye régional Cœur des Vignobles en décidant de le reporter à l'année 2019. Cette décision n'a pas été facile à prendre et nous en profitons pour remercier tous ceux qui nous soutiennent et nous leur disons, ainsi qu'aux concurrents bien sûr, à l'an prochain pour la première édition du rallye régional Cœur des Vignobles, qui trouvera tout naturellement sa place dans le calendrier des rallyes régionaux. Signé l'écurie des Deux Rives, contact écurie-des-deux-rives@free.fr. Fin de citation. Souhaitons aux organisateurs que ce contretemps malheureux ne soit qu'un pas en arrière pour mieux sauter. Dans un tout autre sujet, une petite brève boxe avec l'organisation au chapiteau d'honneur du stadium par le Boxing Club Albigeois d'une après-midi boxe éducative pour les jeunes de moins de 17 ans, de 12h plutôt à 18h ce samedi 3 février. Venez nombreux soutenir et découvrir le Boxing Club Albigeois. Allez, maintenant passons avec une figure bien connue du Maxport, Marie Zalava, la jeune perchiste de l'éclat qui cherche toujours à... Après son record d'Occitanie junior et espoir, en soi la perche en salle le week-end dernier, elle nous a fait la joie alors qu'elle venait de terminer 6e des épreuves du championnat de France universitaire, depuis quelques minutes, de revenir hier après-midi sur sa folle semaine. On l'écoute.
Nous sommes avec Marie Zalava, que nous avons reçue très récemment sur notre plateau lors du Grand Maxport en compagnie d'Olivier Roque de Radio Erdotan. Marie, entre-temps, vous avez fait parler de vous, puisque la semaine dernière, vous avez battu le record d'Occitanie en salle en catégorie espoir et junior. C'est une belle consécration.
Oui, 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 c'est vraiment un bonheur de revenir à ce niveau, surtout en début de saison comme ça. Bon, là, j'étais au championnat de France universitaire, ça a pas... c'est pas monté aussi haut.
D'accord.
Mais mentalement, ça y est.
Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que vous avez passé la barre des 3,91, si je ne me trompe pas, au championnat d'Occitanie. C'est une belle barre, quand même, en salle.
Très belle barre, surtout une belle tentative à 4,02 à la suite. Mm-hmm. Qui ne passe pas, malheureusement, mais belle tentative.
L'essentiel, c'était essayer, et puis peut-être que sur les prochaines compétitions, ça pourrait passer avec un brin de réussite.
Ça fait un petit peu de repos entre-temps et ça va monter, là, il n'y a pas de doute.
On imagine que votre directeur sportif, Brice Morel, a dû être ravi de ce titre et de ce record d'Occitanie.
Oui, oui, il était heureux sur ça, il n'y a rien à dire.
Et au niveau des championnats universitaires, quels ont été vos résultats? Ou je ne sais pas si le concours est fini, ou parce que c'était aujourd'hui que vous concouriez, en ce jeudi.
C'est ça.
Quel a été votre positionnement à l'issue de ce concours?
J'ai fini 7e parce que j'ai voulu jouer un concours tactique. Bon, après, la forme ne suit pas derrière.
D'accord.
Mais mentalement, c'est un peu en avant, quoi. Y a beaucoup de conviction et de la confiance surtout. Donc, c'est vraiment un bon pas en avant.
Et puis, bon, les résultats sur la dernière, vous avez reboosté, comme vous avez dit.
C'est ça.
Et maintenant, pour le futur, parce que la saison en salle va bientôt se clôturer au mois de mars ou avril, c'est ça?
Fin février, oui.
Fin février, donc c'est très prochainement. Quelles sont vos ambitions après pour le reste de la saison?
Là, la suite des compétitions sera les régionaux la semaine prochaine.
Mm-hmm.
Et il y aura les championnats de France le 24 et 25 février.
D'accord.
À voir comment ça se passe.
Et après, en plein air, des objectifs aussi, des barres à atteindre?
Passer les 4 mètres, si je ne l'ai pas fait d'ici là. Ce serait une bonne barre mentalement déjà.
Oui, et puis...
Et pourquoi pas plus?
Bien sûr, il faut jamais s'arrêter. Et les championnats de France qui se dérouleront à Albi, vous espérez pouvoir être dans le lot et y participer?
Ce sera les championnats de France élite, c'est exact. Bon, on verra en fonction des performances, mais ça serait vraiment super d'y participer, surtout à Albi.
Bien sûr, puisque l'éclat sera un des organisateurs et vous êtes une des petites pépites avec exemple, par exemple Alessa Lemitre de ce club. Donc on espère que vous pourrez représenter très haut les couleurs albigeoises.
Merci.
Marie, on va vous laisser, on vous remercie d'avoir pris un peu de temps juste à la fin de votre concours pour venir disserter avec nous de vos exploits récents et on vous souhaite toute la réussite dont vous méritez.
Merci à vous.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
On remercie la pétillante perchiste et championne de l'éclat Marie Zalava d'être revenue à notre micro sur ses derniers exploits en espérant la retrouver sur notre antenne si d'aventure elle arrivait à passer le fatidique cap des 4 mètres qui, comme vous l'avez entendu, elle a érigé un objectif, une affaire à suivre sur nos ondes. Allez, sur ce Maxport touche à sa fin et sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dimanche sur nos ondes pour suivre ASPTT, LOSC en D1 féminine des 13h45 et sur le www.radioalbiges.com. Merci à Arnaud pour la technique et je vous dis à Desias, bon week-end et à mardi 12h30 pour un nouveau Maxport.
Tune, and we always play for the